Balado 96.9. Inspiration Inc. Présenté par la Banque Nationale.
Bonjour à tous et bienvenue à Inspiration Inc. Ce n'est plus un secret pour personne. La vente en ligne qui est en pleine croissance a complètement transformé notre façon de consommer. Depuis 2 ans, les Québécois ont doublé leur achat par Internet, passant de 30 à 60 %, et probablement à cause d'une entreprise québécoise bien de chez nous qui est reconnue partout à travers le monde et qui a littéralement révolutionné le modèle d'affaires traditionnel. Philippe, tu vas bien?
Très bien, toi?
Je crois que tu es toi-même un bon client de l'entreprise Frank & Oak.
Très, très bon client. Très bon, parce que ce que j'ai trouvé de phénoménal de cette entreprise-là, c'est qu'elle est allée au sens inverse de tout ce qui existe dans le monde. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont lancé une marque, oui, puis ils ont décidé de tout de suite aller en commerce électronique. Aucune boutique au début. Ça, c'était du jamais vu. OK? Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont lancé petit. Si on se rappelle, il y avait des quantités limitées de chaque item.
De vêtements pour hommes.
Donc, ils ont créé une genre de rareté. Mm-hmm. Tu sais, l'entreprise a parti en 2012. Aujourd'hui, c'est 200 employés à temps plein. C'est 12 boutiques à travers le monde. C'est des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors, c'est incroyable ce que c'est en train de créer. Les gens de partout dans le monde regardent cette entreprise-là de Montréal, ouais, pour se dire, il y a quelque chose de hot, là. Et le monde les regarde.
Et on est très heureux de le recevoir, le PDG et fondateur de Frank & Oak, Ethan Song.
Inspiration Inc. Portrait d'entreprise.
Ethan Song, on aimerait ça que tu nous racontes un peu ton parcours d'homme d'affaires.
Je suis venu, en fait, de la Chine avec mes parents quand j'étais enfant. Donc, ça a vraiment commencé comme ça ici au Canada. Puis, j'étais très, très artistique étant jeune. Puis, mes parents étaient très scientifiques. D'un côté, j'étais très passionné par les arts, le cinéma, tout ce qui était creative arts.
Ouais.
Mais de l'autre côté, j'avais aussi un côté très cartésien. Donc finalement, je suis allé étudier en génie électrique et informatique. Et à l'âge de 23 ans, quand j'ai gradué, je voulais partir mon entreprise dès le début. J'ai essayé, mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment de connaissances d'affaires. J'avais pas vraiment de sous non plus pour partir. Fait que finalement, j'ai fait comme beaucoup de jeunes, j'ai pris une job. Puis c'est à ce moment-là que je suis revenu à Montréal. J'ai travaillé en fait dans la grande firme Deloitte et Touche,
oui,
dans l'équipe de consulting. Donc c'était un peu comme mon MBA, c'était un peu là que j'ai appris pas juste les affaires, mais comment communiquer avec les gens, comment convaincre des gens, comment faire des pitchs de vente. Après ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et finalement, j'étais prêt donc à me partir en affaires. Puis c'est un peu comme ça que...
Mais attends, t'as lâché ta job, ouais, t'as parti Frank & Oak.
T'apprends l'idée, j'imagine?
Ben, pas vraiment, en fait. J'avais pas l'idée, moi, dans mon cas. C'est pour ça que entre le moment que j'ai quitté ma job puis que je suis parti un projet, il y avait peut-être un 6 à 12 mois où j'étais juste en train de brainstormer, de collaborer avec différents amis, de voir s'il y avait une idée qu'on pouvait partir. Puis c'est de là qu'est finalement venue l'idée du commerce électronique.
Comment justement vous êtes arrivé dans ce brainstorm-là à dire « Hey, on démarre une entreprise qui va révolutionner le commerce électronique. »
Ce qu'on savait, c'est que la technologie allait avoir un rôle important. Puis on savait qu'on était quand même des gars de marque. C'est-à-dire qu'on voulait créer quelque chose qui était direct au consommateur.
Okay.
En lisant sur les grands entrepreneurs comme Steve Jobs, tout ça, j'ai réalisé que le timing,
ouais,
dans l'entrepreneuriat est vraiment, vraiment important. Puis de nos jours, d'être 1 an en retard sur une technologie ou sur une tendance, c'est trop en retard. Fait que ce qui est arrivé, en fait, c'était autour de 2010-2011, qu'après la crise économique, il y a eu une croissance incroyable au niveau du commerce électronique. Puis on le voyait arriver aux États-Unis, qui était comme 6 à 12 mois en avant de ce qui se passait au Canada. Puis on voyait déjà les compagnies comme avoir du succès. Puis on a réalisé que si on allait le faire, c'était à ce moment-là qu'on devait le partir. Donc, c'est plus avec le côté rationnel qu'on l'a fait. Puis il y a plein de raisons pourquoi que ça s'est passé après la crise économique. Une raison, c'est les technologies, l'accès aussi aux produits est devenu plus élevé. Je te dirais que l'accès, en fait, à l'Internet, puis au broadband, puis à la vitesse Internet, c'est élevé. Le shipping était devenu moins cher. Et aussi, les gens voulaient plus choper sur Internet parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir plus d'aubaine. Donc, il y a différents phénomènes qui ont fait en sorte que le commerce a monté. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti à ce moment-là.
J'ai vu aussi que vous aviez travaillé beaucoup en intelligence artificielle, ce qui m'a stupéfait. Tu peux-tu nous en parler un peu là-dessus?
Si on est dans un monde où il y a tellement de produits qu'on peut consommer, c'est quoi le bon produit qu'on veut consommer? Quand, à quel moment on veut l'acheter? Puis c'est quoi les conseils qui viennent avec? Mais on réalise qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup de sens avec le commerce. Puis aussi, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que notre commerce électronique a eu plus de succès dès le début que d'autres commerces? C'est qu'on n'a pas juste offert un produit au client. On a réalisé que dans notre cas, nous, parce qu'au début, on s'adressait juste à l'homme, que les gars, ils ne savaient pas quoi acheter, en fait.
Fait que on ne sait pas s'habiller.
Tu as répondu à un problème des hommes.
Exactement. Mais on a réalisé que, surtout avec la nouvelle génération de gars, dont les gars, mettons, de 25 à 40, ils voulaient en fait être plus fashionable.
Ouais.
Ils voulaient s'habiller plus. Puis le monde du travail est rendu beaucoup plus casual qu'il y a 10 ou 20 ans. Fait que les gars sont forcés à avoir une identité, à avoir un style. Donc, eux, ils voient tout ce qui se passe sur l'Internet. Ils voient aussi ce qui se passe sur les social media, sur Instagram. Mais là, après ça, ils savent pas quoi faire avec leur habillement. Puis ça devient un stress dans leur vie.
Mm.
Fait qu'on, nous, on s'est dit, ben, Frank & Oak, c'est pas juste une marque. Frank & Oak, c'est en fait un service qui va t'aider à mieux t'habiller, qui va te guider dans ton cheminement, puis qui va te faire sentir mieux. Donc, c'est avec cette mentalité-là qu'on a designé un peu notre expérience client, puis qu'on est allé chercher nos clients. C'est qu'on fait pas juste vendre une chemise. En fait, c'est ça que je dis souvent, c'est que la chemise, c'est pas si nouveau que ça. Mais c'est l'expérience à travers tu vas chercher ta chemise.
Complètement, que vous avez bonifié.
Inspiration Inc. Si je veux faire pareil, je fais comment?
J'aimerais qu'on revienne sur le début, la fondation. Au moment où vous avez eu l'idée, évidemment, pour partir une entreprise comme Frank & Oak, ça prend des fonds.
Mm-hmm.
Comment vous avez fait justement pour amasser ces sous-là pour démarrer l'entreprise?
Nous, on n'avait rien, on était juste deux gars.
Parce que t'es un partner, c'est important de le dire.
Exactement, mon partner Hicham, qu'on je connais depuis le secondaire, en fait. On était juste deux gars, on avait sauvé un peu d'argent. Mais tu sais, quand on dit un peu d'argent, c'est genre 5 000 $. C'est vraiment comme...
C'est un peu d'argent,
c'est
oui.
Comme le savings que n'importe qui aurait pour un voyage, en fait.
Ouais.
Puis c'est sûr et certain que bon, mes parents, ses parents nous ont aidés un petit peu aussi, comme tout le monde. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est que ben on est allé cogner à des portes. Mettons la Fondation du maire, le Sage. Donc, en fait, tous les programmes qui sont disponibles pour tout le monde. Puis avec ça, ben c'était assez d'argent.
Ça vous a donné les outils et l'argent, évidemment, pour vous aider à démarrer.
Exactement.
Mais ces fonds-là, là, est-ce qu'ils te trouvaient... Tu sais, t'arrives quand même en 2012.
Ouais.
Le commerce de détail est en crise. Puis tu dis, by the way, je voudrais de l'argent parce que je vais relancer une business de commerce de détail. Ils te recevaient comment, les gens?
Mais je te dirais que ça dépend à qui tu vas voir. T'sais, c'est sûr que il fallait que tu expliques un peu ce que tu veux faire puis que tu fasses comprendre aux gens que, bon, il y a une industrie puis il y a plein d'approches. Et même avec le succès qu'on a aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire non. Il y a plein de gens qui vont dire non, on ne croit pas ou qu'il y a des raisons pourquoi vous n'allez pas réussir. C'est normal. Comme entrepreneur, il faut que tu crois à ton idée puis que tu pousses. Puis que tu t'adaptes, en fait, à ce que les gens pensent. La capacité de pouvoir vendre ton idée, de pouvoir convaincre les gens, c'est important. C'est un des skills, en fait, qu'un entrepreneur doit avoir. Je pense que de notre côté, c'était après ça, c'est d'aller trouver les bons partenaires, les bons employés, puis évidemment, les bons partenaires financiers aussi avec le temps qui vont venir supporter cette vision-là.
Comment on fait une entreprise québécoise pour avoir autant de succès aux États-Unis dès le départ? Ça a été quoi, mettons, les outils ou qu'est-ce que vous avez fait pour développer ce marché-là?
Le premier point, c'est d'avoir une philosophie où que on se voit comme une entreprise qui est basée au Québec, mais que son marché international. Parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière géographique. Quand quelqu'un va sur un site web, ils ne se disent pas « Ah, ce produit-là va être shippé de Londres ou de la Chine ou du Japon. »
En fait, même comme consommateur, tu t'en fous à un certain point. Tu veux l'item.
As-tu engagé des boîtes de marketing aux États-Unis pour t'aider à développer ton brand là-bas ou tout se passait ici, puis avec les réseaux sociaux, tu as très bien pu faire ce que
tu
avais à faire?
Non, tout se passait ici. Tu sais, okay. Je te dirais que parce que le monde est plus connecté à cause des médias sociaux,
ouais.
Les tendances ici sont les mêmes tendances qu'à New York, sont les mêmes tendances qu'à maintenant à Stockholm. Donc, c'est de cibler une tendance qui est aussi relevant ici qu'elle l'est ailleurs. Puis si tu le fais, puis après ça, tu as une bonne capacité de traduire cette tendance-là, ces valeurs-là, dans les médias sociaux. Mais sur Instagram ou sur Snapchat, il n'y a pas une question de géographie. Moi, j'ai vraiment réalisé que les gens, nos clients qu'on a à l'international, ils aimaient ça, en fait, qu'on soit montréalais. Ils aimaient ça qu'on soit une marque canadienne. Que ça soit pas américain ou que ça soit pas asiatique, qu'il y a un côté intéressant de ça. Donc, en fait, je pense que c'est une opportunité comme pays ou comme région d'aller véhiculer, en fait, nos valeurs. Puis je trouve qu'il y a une opportunité de marketing. Mais dans le monde global, c'est beaucoup plus intéressant d'être authentique, d'être unique d'où tu viens. Dans notre contenu, on peut aller le voir. C'est on dit clairement d'où qu'on vient puis on en parle. Puis c'est ça qui nous rend intéressant, en fait.
Des jeunes entrepreneurs, mettons, devant toi. Okay. Mm-hmm. Pas jeune en âge, mais des gens qui veulent se lancer. C'est quoi tes trois conseils?
Mais je te dirais que mon premier conseil, c'est juste de se lancer. Je pense que les gens, ils passent beaucoup de temps en idéation puis en planification. Puis dès qu'ils se lancent, ils réalisent que tout ce temps-là a été gaspillé parce que c'est pas ce qu'ils pensaient. C'est pas ce qu'ils pensaient anyways. Tu peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Fait que je pense que c'est juste de se lancer. Je te dirais que le deuxième point, c'est que j'encourage tous les entrepreneurs à se trouver un partenaire. Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose, un point qui est intéressant parce que souvent, les gens, ils disent, mais oh, je connais pas personne ou, tu sais, toi, t'es chanceux parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Mais tout le monde a des gens comme ça autour d'eux. Puis pourquoi c'est important? C'est que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un mariage, en fait, un partenaire dans une business. Puis c'est pour ça que ça peut aussi mal aller. Mais c'est tellement difficile de partir d'une entreprise que d'avoir cette relation-là, c'est ça qui fait que ça endure, en fait, souvent, dans les beaux temps et les mauvais temps. Donc ça, c'est le deuxième point que j'encourage tout le monde à le faire. Puis c'est quelque chose qu'on m'a encouragé à mes débuts. Puis je trouvais ça intéressant. Puis à ce moment-là, j'étais pas sûr. J'étais comme, alors moi, je peux tout faire moi-même. Mais j'ai réalisé que d'avoir un bon partenaire, ça fait une vraiment une grande différence. Donc je dirais que j'encourage les gens à faire ça. Le troisième point, je pense, ce qui est vraiment intéressant, ça va un petit peu avec le premier point, c'est juste de, si tu as un produit, si tu as une idée, n'aie pas peur de la partager, n'aie pas peur de lancer ton produit, même si ce n'est pas parfait. Parce que, encore une fois, tu ne peux pas vraiment savoir si ça va être bon ou pas. Mmh. Donc, n'aie pas peur de tester, puis de ne pas réussir, puis de te réinventer. Puis c'est à travers cette réinvention-là que tu vas sûrement innover puis trouver quelque chose de bon.
Mais je pense que tu as été capable, justement, vous avez été capable de saisir cette opportunité-là. Mais là, dans les années qui s'en viennent, je sais que vous avez lancé un projet, un fonds, mm-hmm. qui s'appelle le 50-50, mm-hmm. Que je trouvais, c'est une idée géniale. C'est une idée qui se fait ailleurs, il faut le mentionner, ouais. Mais vous l'avez quand même amené à, je vais appeler ça, votre saveur, votre culture à vous. Tu peux-tu nous parler de cette initiative-là?
On a toujours voulu impliquer notre communauté, mais ça faisait longtemps qu'on trouvait une façon qu'on voulait réinvestir, en fait, dans la communauté. Et donc, c'est à ce moment-là que la meilleure façon de le faire, en fait, c'est de remettre de l'argent, des sous dans la poche d'entrepreneurs qui vont après ça partir d'autres entreprises et qui vont créer non seulement une croissance économique, mais qui vont aller influencer leur créneau à eux.
Wow!
Donc, l'idée, c'était de mettre 1%, en fait, de nos ventes de réinvestir
de notre chiffre d'affaires.
De notre chiffre d'affaires dans les entrepreneurs. Puis c'est très transparent parce que c'est pas un montant qui est donné, qui vient de nulle part. C'est vraiment 1% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est très clair de ce côté-là.
C'est une réussite qui en amène une autre potentielle.
Exactement. Ouais. Puis de l'autre côté, c'est qu'on a vraiment réalisé que d'investir en fait dans l'industrie du savoir plutôt que dans la consommation, on crée en fait un mouvement où que... C'est vraiment intéressant qu'une entreprise, en fait, qui est dans le fond dans le vêtement, puisse après ça contribuer à l'essor économique. C'est un peu ce type d'entreprise-là qu'on a toujours voulu créer, puis je pense que ça fait du sens.
Ethan Song, co-fondateur et PDG de Frank & Oak, ça a été un plaisir de te recevoir à Inspiration Inc. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Inspiration Inc. Les enseignements.
Qu'est-ce qu'on retient de cet entretien-là avec Ethan Song?
En fait, la première chose, moi, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Lance-toi.
Ouais.
Attends pas que ton produit soit totalement fini. En fait, c'est ça qu'il nous a dit. Il dit, il faut que tu te lances. La deuxième chose, c'est un peu vas-y. T'sais, aie le courage de le faire. Ose provoquer les choses. Le troisième, c'est donner au suivant. C'est incroyable comment cette entreprise-là qui va réinvestir 1% de son chiffre d'affaires, ça va être énorme un jour. Il parlait d'aider 150 entreprises dans les 3 prochaines années. Alors, c'est une culture, ça.
Mm-hmm.
Puis, la quatrième qui m'a frappé, parce que c'est une entreprise de Montréal qui vend partout à travers le monde, c'est les valeurs canadiennes. De ne pas avoir peur de dire qu'ils sont de Montréal au Canada.
Effectivement.
Et ça, c'est rare, parce qu'aux États-Unis, généralement, on se fait dire, dites-les pas trop, mais lui... C'est ancré dans la culture de l'entreprise. On est Canadien et on est fiers d'être à Montréal. Puis ça, je trouve ça extraordinaire.
Quelle belle rencontre ce fut. Philippe, un gros merci à
merci
toi.
Merci beaucoup.
On remet ça pour une prochaine capsule d'Inspiration Inc.
D'autres épisodes avec des passionnés, très bientôt sur c'est quoi.com. Inspiration Inc. Une présentation de Banque Nationale. Réalisons vos idées. Balado 96.9.